8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bienvenue à vous, les voisins et les voisines. Ils incarnent ce qu'on appelle l'ubérisation, qui rime avec précarisation. Ce sont les chauffeurs VTC. On les appelle aussi les travailleurs des plateformes. Et pourtant, Uber leur vendait le rêve américain avec costume, berline noire, l'argent facile, la liberté sans patron. Bref, l'Eldorado pour tous les chômeurs des quartiers populaires. Sauf que voilà, dans la vraie vie, c'est la course ou la course. Le travailler toujours plus, sinon on te déconnecte de la plateforme. C'est le nouveau management par algorithme. Alors qui sont-ils ces chauffeurs VTC? En quoi sont-ils uberusés, pour reprendre un slogan? Et peut-on parler de travail subi ou choisi? On en cause avec vous qui nous écoutez bien sûr et nos invités. Bonjour Sophie Bernard.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeure à l'université Paris-Dauphine, autrice de l'enquête Uberusé, le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal et c'est chez PUF. On reviendra tout à l'heure sur le titre du livre qui est plutôt fort. Donc effectivement, vous avez recueilli les témoignages d'une centaine de chauffeurs dans ces trois métropoles. Vous nous raconterez quand même si ça a été compliqué de libérer la parole. Il faut peut-être rappeler Uberusé, c'est effectivement le slogan hein, certains chauffeurs. Hein.
Oui, c'est un slogan qui a été utilisé par les chauffeurs mobilisés à Paris en 2017.
Voilà, pour réclamer.
Je l'aurais emprunté.
Exactement, emprunté, sans copyright. À vos côtés, Karim Daoud, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes chauffeur VTC, président de l'association des VTC de France. Vous défendez les chauffeurs auprès de toutes ces plateformes. Okay. Pareil, vous nous direz si c'est compliqué d'avoir un dialogue social avec ces entreprises qu'on dit plutôt opaques.
On n'en est pas loin.
On n'en est pas loin.
On est loin de la transparence, en tout cas.
C'est ça, un peu David contre Goliath.
Ouais, exactement.
Vous nous direz tout ça. Ouais. On sera également en ligne avec Emeline Vince, c'est notre correspondante à Londres, pour évoquer les conditions de travail des chauffeurs Uber au Royaume-Uni. Et nous écouterons au micro de Charlie Dupio le témoignage d'Adil. C'est un jeune chauffeur qui, lui, veut carrément quitter les plateformes pour devenir taxi. Voilà, et vous qui nous écoutez, travailler pour les plateformes, avoir un statut indépendant, est-ce que ça vous fait rêver ou pas? Vous nous appelez bien sûr au 33 7 64 45 51 41. C'est parti.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Bonjour, Jean-Christian Gagnon, recruteur chez Uber. Alors Uber, c'est quoi? Uber, c'est faire partie d'un monde meilleur. Avec Uber, personne.
Avec oui,
C'est surtout qu'avec Uber, en deux clics, vous êtes transporté où vous le souhaitez par un chauffeur sélectionné. Et vous pensez que c'est simple d'organiser du transport de personnes, que ce soit en voiture, en avion ou encore en hélico? Non, il nous faut du monde, des gens motivés, des gens dédiés. Et ça, du monde, chez Uber France, il en manque. Et apparemment, il en manque beaucoup. Pourtant, des gens, on en cherche. Eh ben oui, mais comment on ferait sinon pour qu'il y ait toujours un chauffeur à côté de vous? On a besoin de petits génies comme eux, des super. Ah, et oui, j'oubliais, la qualité Uber, ben, c'est aussi grâce à eux. L'eau, les bonbons, les espaces verts, l'amour, la joie, oh! Vous avez déjà pensé à faire livrer des glaces, des chatons ou même votre grand-mère en chauffeur Uber? N'hésitez pas à rejoindre notre équipe marketing, il reste de la place. Et si vous êtes des produits SAV, on vous veut aussi.
La campagne de recrutement d'Uber France, c'était en 2017, qui joue la carte de l'humour hein, pour attirer des chauffeurs. Alors, vous n'avez pas l'image, mais c'est ambiance start-up sympa, trentenaire, avec des tables de ping-pong et tout et tout. Bon, on va voir que dans la vraie vie, ce n'est pas totalement aussi idyllique. Je voyais sourire Karim Daoud.
Tout à fait. On en est loin.
Ambiance start-up famille, ce n'est pas franchement ça.
Non. On est loin du ping-pong ou du baby-foot. Là, c'est vraiment travail à la chaîne et sans arrêt. Et on est au minima 10 heures de travail par jour.
Franchement,
qui n'est pas du tout en adéquation avec les horaires que les chauffeurs font. Et justement, c'est pour ça qu'on se bat.
Et c'est pour ça qu'on se bat. Ouais. On va revenir sur tous ces combats. Juste un mot quand même, Sophie Bernard. Le titre de votre livre, Capitalisme racial de plateforme. C'est fort.
Tout à fait, mais ça correspond à la réalité, en tout cas à la réalité de l'enquête, au sens où dans les trois métropoles dans lesquelles j'ai enquêté, donc Paris, Londres, Montréal, c'était vraiment le trait commun en fait de ces chauffeurs d'être des hommes racisés. Alors avec des origines migratoires qui pouvaient être différentes, évidemment, en fonction des pays, mais c'était vraiment le trait commun. Et donc c'est quelque chose qui m'a interpellée et que j'ai essayé de comprendre. Et donc finalement, quand on essaye de comprendre le mécanisme, pourquoi on a cette surreprésentation d'hommes racisés parmi les chauffeurs Uber, on voit déjà que c'est une stratégie de l'entreprise. L'entreprise Uber va les chercher, malgré tout, au sens où, par exemple, à Paris, on avait eu l'opération de communication 70 000 entrepreneurs en 2016, où on avait des bus qui circulaient en partenariat avec Pôle emploi. Dans les quartiers populaires d'Île-de-France, oui. Donc pour les recruter, entre guillemets. Donc il y a quand même une volonté, malgré tout, d'aller les chercher.
Mais d'aller chercher aussi parce que... c'était les récits héroïques hein, d'Hubert en disant, bah voilà, nous on fait l'intégration, ce sont des gens aussi qui sont parfois, souvent, discriminés à Pôle emploi, qui ne trouvent pas de boulot tout en raison de leur nom et de leurs origines aussi. Ouais. Hein.
Ah, tout à fait, ça a répondu en effet aussi à des aspirations et à une position spécifique occupée par ces hommes dans le monde du travail. C'est que finalement, ils sont souvent assignés à des positions précaires, à des emplois précaires, à des emplois avec des conditions de travail pénibles. Et donc, ils y ont vu un moyen de gagner plus, parce que c'est ce qu'on leur a vendu au tout début, et puis d'être indépendants.
Voilà, sans patron. Et on verra tout à l'heure
que c'est important pour
pas eux. Totalement le cas. Dans votre association aussi, Karim Daoud, il y a une bonne part aussi de chauffeurs issus d'immigration.
Oui,
les gens qui ne trouvaient pas de boulot.
Il y a une bonne part de chauffeurs d'immigration, mais sachant que Uber a trouvé, Uber ou les applications, autres, ouais. Les autres applications ont trouvé le terrain propice. À savoir, beaucoup de chauffeurs, effectivement, sont issus de l'immigration, mais on a beaucoup de diplômés, beaucoup des personnes qui ont des masters et qui tapaient à chaque porte des entreprises et qui se faisaient refouler. Et malheureusement, ils sont tombés sur Uber. Ils en sont réduits à devenir chauffeurs, mais parce qu'on ne leur demandait pas de leur origine, leur nom, ni leur âge. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il n'y avait pas de discrimination. Mais maintenant, malheureusement, c'est une autre forme de précarité.
C'est voilà, ça, donc, ouais.
Qui existe aujourd'hui.
Il faut peut-être rappeler que les conditions pour devenir chauffeur, que ce soit à Londres, je crois, à Montréal ou à Paris, c'est uniquement le permis de conduire, c'est ça, et le casier judiciaire vierge, non ?
Non, il y a une formation.
Il y a une formation, oui, bien sûr.
Il y a une formation de chauffeur.
En France.
Donc, en France, oui. Mm-mm. Pour les autres pays, je ne sais pas, mais en France, oui, il y a une formation.
Ouais.
Il y a une formation, tout dépend des centres de formation, mais qui est en moyenne de 140 heures.
Ouais. Durant ce périple et cette enquête qui a duré un petit peu longtemps, vous avez rencontré une centaine de chauffeurs. Franchement, il n'y a pas de profil type. Hein. Vous le disiez, il y a aussi bien des jeunes étudiants immigrés pour qui c'est un bad job, comme ils disent. Hein, un bad job, mais...
Un good bad job.
Un good bad job.
Ouais, justement, le good bad job, c'est l'idée que c'est un mauvais boulot, mais pas si mal.
Transitoire.
Voilà. Enfin, en tous les cas, par rapport à justement ce à quoi ils sont assignés, cantonnés, c'est pas si mal. Ça a des avantages. C'est plutôt dans cette logique-là. Mais c'est vrai que pour rebondir, moi, j'ai rencontré des hommes qui pouvaient être peu, pas diplômés, issus des catégories populaires, assignés aux emplois pénibles, précaires, et aussi des hommes diplômés qui issus des catégories moyennes supérieures, et qui, en fait, sont entrés dans le métier pour atténuer leur sentiment de déclassement, en fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à des emplois à la hauteur de leur diplôme. Donc, on a ces deux profils, en fait.
Oui, puis ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la berline, le côté un peu signe d'ascension sociale. Enfin, je vois tiquer.
Oui, on va dire le service, c'est largement dégradé parce que le prix a été dégradé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, au début d'Uber, le service n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui.
Ouais.
Là, aujourd'hui, on est vraiment dans du low cost.
Ouais.
Et le prix, il est vraiment tiré vers le bas. À l'époque, on pouvait travailler raisonnablement bien et avoir un salaire, entre guillemets, décent. Aujourd'hui, pour avoir ce salaire décent, il faut cravacher, mais bien comme il faut.
Ah, mais justement, vous, dans votre association, il faut travailler combien d'heures par semaine ou pas pour avoir un salaire décent? Alors, après, je ne sais pas ce qu'on met comme montant, salaire décent.
En moyenne, 60 heures.
On est 60 heures
ah, oui.
Par semaine.
Par semaine, oui.
Pour avoir un salaire de...
En moyenne, de 2000, pour tourner autour, aux alentours de 2000 euros.
Oui, c'est ça.
Avoir un salaire net, entre guillemets, après charge, etc., de 2000 euros.
Travailler plus, sachant que la plateforme...
En moyenne, hein, en plus moyenne, ou moins. Oui. Hein, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est à peu près ça.
Et la plateforme prend combien sur chaque commission, chaque course?
Par exemple, pour Uber, c'est 25%.
25%, un quart.
Ouais,
je vous propose d'écouter le témoignage d'Adil. Il a 32 ans, il est chauffeur sur les plateformes depuis 6 ans. Il vit à Évry, une ville au sud de Paris dans laquelle il a grandi avec ses parents originaires du Cachemire, à la frontière de l'Inde et du Pakistan. Notre reporter Charlie Dupio a embarqué dans sa voiture. Elle a fait comme vous, hein, pour les enquêtes. On l'écoute.
Alors du coup, je monte à l'avant, normalement on monte à l'arrière.
C'est ça.
Alors sur votre véhicule, on voit écrit en gros Bolt.
C'est ça. En fait, moi, je travaille avec deux plateformes principalement, Uber et Bolt. Et bah, après, nous, on n'est pas salariés, donc on peut travailler avec n'importe quelle application.
Alors là, il est 11h30. Votre journée n'a pas encore commencé?
Non, parce qu'en fait, moi, je suis sur deux types d'horaires différents. Il y a des jours où je vais commencer très tôt le matin, donc à 5h, et je vais finir la journée à 16h. Et d'autres jours où je vais commencer donc à 14h, après avoir déposé mon fils à l'école, et jusqu'au soir, 23h.
Quand vous activez l'application, à ce moment-là, il y a une notification. Comment
en fait,
ça s'affiche?
Par exemple, je vais appuyer sur le bouton Go.
On est sur l'appli Uber.
On entend le petit bruit qui veut dire qu'on est connecté, vous êtes en ligne. Et dès qu'un client va commander un chauffeur, la course va apparaître, elle va entre guillemets sonner. Donc c'est à nous d'accepter ou d'appuyer sur la croix pour refuser. On peut refuser le nombre de courses qu'on veut.
Et alors là, quand vous roulez, vous avez donc deux téléphones qui sont accrochés au-dessus de votre écran.
Celui qui est sur la droite, ce sera celui avec du coup les applications. Donc là, on a Uber.
Et là, on voit votre note sur Uber, c'est 4,97 sur 5. Toutes les notes sont sur 5, donc c'est quand même pas mal.
Il y a le taux d'acceptation, le taux d'annulation et le nombre de courses réalisées depuis qu'en fait je travaille avec eux.
On voit que vous avez fait en 6 ans 11 623 courses.
C'est ça. Donc en fait ça c'est le nombre de courses que j'ai fait avec Uber. En sachant que j'ai aussi travaillé avec d'autres applications. J'ai pas vraiment le détail, mais oui, après les courses ça va assez vite.
Quand un client rentre dans votre voiture, qu'est-ce qui se passe?
Habituellement c'est le bonjour classique. Je confirme l'identité parce que ça peut arriver que le client se trompe de voiture. Et je confirme l'adresse de destination. Et après, ça va être, est-ce que vous voulez écouter une radio, est-ce que vous voulez la clim ou pas, parce qu'en ce moment, il fait un peu chaud. En fonction des réponses, on voit si le client va développer la conversation ou pas. Donc à ce moment-là, on s'adapte. S'il ne veut pas discuter, on ne va pas insister.
Et ça ne vous frustre pas, ça, de ne pas forcément pouvoir discuter?
Non, ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je fais cette activité. Donc j'ai pris l'habitude, en fait, de pas discuter, même pendant des trajets de 2h30, on va pas discuter. Mais après, moi, il y a la radio. Et la radio, c'est un peu l'ami qu'on a avec nous dans le véhicule.
Qui évite la gêne, peut-être,
voilà,
aussi.
C'est un peu gênant. Donc, soit je mets un peu de radio, soit ça va être de la musique, soit ça va être les infos. Même si le client, souvent, maintenant, ils ont leurs écouteurs, moi, ça me permet de pas être non plus tout seul, quoi. En fait, moi, si on repart depuis le début, j'ai commencé un parcours scolaire classique. J'ai fait un bac ES.
Économique et social.
Économique et social, que j'ai raté une première fois, que j'ai eu au rattrapage de justesse. J'ai fait 2 ans en commerce international. Mais après le BTS, j'avais pas vraiment envie de continuer. Donc en fait, j'ai fait de l'intérim. Mon père m'a parlé du fait que voilà, mon beau-frère allait reprendre une activité, donc une boutique de quincaillerie. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et après, quand on est dans une boutique et qu'on travaille dans une boutique à son propre compte, c'est 8h, 20h en fait, tous les jours. Le dimanche aussi, ça peut être 8h, 20h aussi. Et moi, j'avais besoin d'une activité justement avec des horaires un peu plus libres. J'ai entendu parler du métier de VTC. Ce qui m'a attiré, c'est entre guillemets la liberté, parce qu'on n'est pas vraiment libre, parce que du coup, on dépend quand même des applications justement. Mais c'était le côté de la liberté des horaires. pouvoir gérer son emploi du temps comme on le veut. Après, on est dans un métier où les chiffres d'affaires varient chaque semaine.
Et si je vous demande une moyenne de votre chiffre d'affaires ?
Je suis à peu près aux alentours de 5 500 € par mois de chiffre d'affaires. Il faut déduire toutes les charges. Donc il faut déduire l'assurance, le carburant. Quand on est en auto-entrepreneur, il y a l'URSSAF à payer. Donc c'est 22% du chiffre d'affaires.
Les cotisations.
C'est ça.
Et alors, si vous retirez tout ça, ça fait combien à peu près en moyenne ?
Je pense qu'il doit rester à peu près 2 000 à 2 500 € par mois, oui.
Et vous travaillez combien de jours par semaine ?
Moi, je travaille 6 jours par semaine, donc du lundi au samedi.
Et qu'est-ce qui est difficile dans votre travail, pour vous ?
C'est les jours où vraiment il n'y a pas de clients. Ça peut arriver des jours où on reste 2-3 heures sans avoir de clients.
Sur l'application, il n'y a aucune notification ?
Il n'y a rien du tout, c'est-à-dire qu'on est dans notre voiture, on attend comme ça. C'est quelque chose qui me stresse parce que je me dis que je perds du temps en fait. Par jour, j'ai un objectif de chiffre d'affaires entre 200 et 250 euros. Dès que j'arrive à 200 euros, déjà dans ma tête, je suis un peu plus tranquille.
Comment c'est perçu dans votre entourage le fait d'être chauffeur VTC ?
On est 3 frères et 1 sœur. Et mes 2 frères sont... Il y en a un qui est ingénieur en informatique et l'autre qui est dans le consulting. Donc moi, j'étais un peu le cancre de la famille, on va dire. Parce que déjà, j'ai été le premier à avoir redoublé quand j'étais en terminale. Et je suis le premier à avoir arrêté mes études à Bac plus 2. T'as grandi en France, t'es né en France, t'as fait tes études en France et tu finis chauffeur. En gros, tu fais le même métier que quelqu'un qui vient de l'étranger et qui est en France depuis 2-3 ans. Ça, on peut l'entendre. Même par rapport à la famille de ma femme, hein, je ne sais pas comment ils me voient, mais je pense qu'ils auraient préféré avoir quelqu'un qui ait un métier un peu plus valorisant, quoi.
Et vous, comment vous le vivez, ça ?
Bon, des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, ça me passe au-dessus. Moi, j'aime bien conduire. Moi, ma femme ne travaille pas, je suis le seul à travailler. J'essaie de subvenir à tous ses besoins et même aux besoins de mes enfants. Pour moi, c'est le plus important.
Voilà, un témoignage signé Charlie Dupiot. A noter que Kadil veut devenir chauffeur de taxi. Il suit en ce moment une formation et il espère un statut plus réglementé. Karim Daoud, quand vous entendez ce jeune homme dire « tu finis chauffeur », c'est pas valorisant pour la famille, pour les amis. Qu'est-ce que ça cause chez vous qui avez été chauffeur aussi ?
Bah, pour moi, c'est un métier comme un autre. Hein.
Ouais.
Je préfère que la personne soit chauffeur que chômeur. Donc, c'est pas du tout la même chose. Au moins, il ramène un revenu à la fin du mois, etc. Mais encore une fois, le chauffeur d'aujourd'hui, surtout le chauffeur Uber, aujourd'hui, son avenir n'est pas du tout assuré.
Mm.
Demain, il a un accident, bah, il se retrouve sans revenu, sans rien du tout. Ses cotisations retraite, demain, j'ai tendance à dire que ça sera les futurs clochards qu'on trouvera sur les rues de Paris demain. Parce qu'ils n'auront pas cotisé ou très peu cotisé. Donc c'est un très gros problème vis-à-vis du chauffeur actuellement.
Ouais.
Tel qu'il travaille, c'est bien, il travaille, il génère un revenu, il travaille pour sa famille, c'est très bien. Sauf que à long terme,
c'est pas un métier où l'on vieillira bien.
Exactement.
Ouais. Dans votre enquête, Sophie Bernard, vous parlez de chauffeurs appâtés, piégés. Vous avez rencontré aussi beaucoup de chauffeurs endettés aussi.
En effet, c'est eux qui m'expliquent qu'ils sont d'abord appâtés par les rémunérations élevées qu'on leur promet, et puis en fait qu'ils se retrouvent à la fin piégés parce qu'ils doivent faire face à toutes les cotisations, et tout un tas de dépenses en fait qu'ils n'avaient pas forcément bien anticipées en tous les cas. Et donc ils se retrouvent en effet piégés dans le métier. Et aspire un certain nombre à finalement changer de métier, comme par exemple taxi, comme c'est le cas,
d'Adil. Ouais. Un mot quand même, juste avant de faire une petite pause. Karim Daoud, faut rappeler quand même qu'avec votre association et 2 autres syndicats de chauffeurs VTC, vous avez réussi à obtenir un accord des plateformes pour imposer un revenu minimum de 7,65 euros net par course. C'était plutôt un accord inédit, en tout cas en France.
Bien sûr.
Franchement, ça a été compliqué ou pas ? Le dialogue social, ça existe avec ce genre de grosses boîtes ?
Il existe, ça a été compliqué, oui. Ça a été constant, mais on a réussi à aboutir à un accord. Et c'est vrai que c'était une première. Au moins, on a un filet de sécurité. On sait que avant le chauffeur, même on va dire beaucoup moins aujourd'hui, mais avant, le chauffeur pouvait perdre son revenu. Avant même d'avoir pris en charge, il perdait de l'argent.
Ouais. Donc, course pas rentable, quoi, parce que ouais, comme il n'y avait pas de tarif
voilà,
minimum.
Et on avait des courses qui étaient à 4,50 €.
Oui, c'est ça.
Donc,
avec
et
l'essence en plus.
Et vous voyez le tarif du carburant aujourd'hui, l'inflation, etc. Mmh. C'était juste pas possible.
Et tout à l'heure, dans quelques instants, Adil parlait justement de fausse liberté. On va voir qu'il existe un management algorithmique. Pas facile à dire, en tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre, Sophie Bernard. Et puis on verra en quoi aussi ces chauffeurs sont totalement pressurés par la note du client toujours roi. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On écoute le rappeur américain Don Toliver en duo avec le Nigérian Wizkid. Ça s'appelle Slow Motion sur RFI. Don Toliver et le Nigérian Wizkid sur RFI dans 8 milliards de voisins et de voisines. On parle des conditions de travail des chauffeurs VTC, les travailleurs de plateforme, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, pour qui l'ubérisation rime avec précarisation. On est toujours en compagnie de la sociologue Sophie Bernard, autrice de l'enquête Uberusé, le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal. C'est chez PUF, et de Karim Daoud, président de l'association des VTC de France. On le disait en début d'émission, Sophie Bernard, vous avez rencontré une centaine de chauffeurs. Il n'y a pas de profil type, hein, c'est ce qu'on a dit. Mmh. Mais quelle est la part de ceux pour qui c'est un job à plein temps, ou pour d'autres c'est un petit boulot aujourd'hui avec la crise économique mondiale?
Alors, en fait, ça dépend des pays, parce que les régulations ne sont pas du tout les mêmes. Donc, à Paris, c'est vraiment pour la grande majorité une activité principale. À Londres, on en trouve... Moi, par mer, je ne peux pas faire des statistiques à partir de mes enquêtes, mais disons que j'ai rencontré un quart, en gros, de mes enquêtés qui étaient en activité complémentaire. Et à Montréal, c'est la moitié, pour le coup. Mais parce qu'à Montréal, ça s'inscrit dans le... C'est présenté comme du covoiturage. Donc là, pour le coup, il suffit d'un permis de conduire et puis d'une formation assez rapide, en fait.
Ouais, c'est du covoiturage, oui, effectivement.
Donc en fait, et ça a été illégal, ils se sont implantés et pendant 3 années, ils ont poursuivi leur activité de manière totalement illégale. Parce que c'est toujours la même logique.
Ouais, c'est ça.
On s'implante. Et on a finalement, il y a des oppositions. Et le temps que, que les oppositions s'organisent, finalement, ils sont déjà installés et c'est trop tard pour les interdire et pour agir.
Oui, c'est ça. Alors, vous nous racontez hein, dans ce livre passionnant que ça a été compliqué hein, quand même de recueillir la parole aussi de tous ces chauffeurs. Et déjà parce que, par manque de temps, or le temps, c'est de l'argent. On a bien compris qu'ils doivent travailler énormément 6 jours sur 7, les week-ends, voilà, pendant les vacances, etc. Et surtout parce qu'ils sont ultra connectés à plusieurs plateforme pour ne pas rater une course. Cette ultra-connexion, elle doit être ultra-stressante. Vous-même qui avez été chauffeur, Karim Daoud, est-ce que les différents chauffeurs que vous représentez sont stressés par cette ultra-connexion?
On est à l'affût de courses, de transports. Donc, dès que ça sonne, on essaie de récupérer le transport le plus intéressant et d'aller sur le transport et ainsi de suite. Faut pas qu'on, parce que les charges, elles tombent tous les mois. La location du véhicule, l'assurance, le carburant, on n'a pas trop le choix. Donc, et le chauffeur en lui-même a ses charges personnelles, à savoir le loyer, etc.
Bien sûr.
Des fois, une famille à nourrir. Donc, c'est pas évident.
Ouais. Pas le choix, sauf que, voilà, il arrive que certains chauffeurs annulent une course qu'ils jugent peu rentable, trop près. On en parlait là tout à l'heure. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Uber a des chiffres. Uber impose un taux d'acceptation des courses supérieur à 80% et un taux d'annulation inférieur à 4%. Et si le chauffeur refuse ou annule trop, qu'est-ce qui se passe, Sophie Bernard?
Le risque, c'est de voir son compte suspendu, voire à terme, voir son compte totalement désactivé. Après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ces chiffres, les chauffeurs savent jamais véritablement s'il n'y a pas des évolutions. Et c'est toute la force de ce mécanisme, c'est une forme d'incertitude. On ne sait jamais exactement c'est quoi les taux pour lesquels on va être déconnecté. Parce que finalement, on a des chauffeurs qui vont pas forcément correspondre à ces taux, y répondre, qui ne sont pas déconnectés. D'autres, par contre, qui vont l'être. Et en fait, c'est cette incertitude qui induit une forme d'encadrement spécifique. C'est-à-dire qu'on se dit, vaut mieux se tenir à carreau et respecter ses chiffres pour être sûr de ne pas voir son compte suspendu plutôt que de jouer. Mais après, au fil du temps, de l'expérience, il y a quand même des jeux avec ces taux. Mais c'est toujours risqué.
C'est ça. Compte suspendu, ça veut dire qu'on ne peut plus bosser, quoi.
Il est là le problème. Donc, tout dépend. On va dire, quand on est à Paris, on peut travailler avec d'autres plateformes. Mais les plateformes, elles sont un peu partout en France, mais elles ne sont pas toutes présentes en France. Donc, quand on est des fois dans des villes spécifiques où il n'y a qu'une ou deux plateformes, si le chauffeur se fait suspendre son compte, il arrête définitivement de travailler. Et plus aucun revenu. Et là, on a eu vraiment des cas de dépression, voire de tentatives de suicide. Donc, parce que du jour au lendemain, le chauffeur n'a plus aucun revenu. Et les frais, les crédits, etc., continuent à encourir. Donc ça, c'est un très gros problème. On a un flou total hein, sur les chiffres aujourd'hui par rapport aux déconnexions, etc. On nous donne des alertes pour les chauffeurs sur, par exemple, 10 000 ou 9 000 courses, il y aura toujours un problème avec un ou deux clients. On comprend que le client doit être roi, mais...
Parlons-en du client toujours roi.
Le problème, c'est que il y a une telle pression sur le chauffeur qu'il a pas le choix que de se taire et de travailler et de...
Parce qu'il faut rappeler, c'est le management par algorithme, finalement. Hein. On est loin de la liberté sans patron. Là encore, il faut rappeler qu'à la fin d'une course, un client peut laisser un commentaire et noter le chauffeur. De toute façon, maintenant, on note tout le monde et n'importe qui et n'importe quoi. Il peut le noter d'une à cinq étoiles. Hein, c'est
exactement
bien ça. Et Uber, là encore, peut désactiver le compte du chauffeur s'il a obtenu moins de 4,5 étoiles sur les 500 dernière course. Là encore, c'est le gouvernement de la plainte et de la note, hein, sachant qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'un client peut mal se comporter aussi à bord d'une voiture. Hein.
C'est ce que dénoncent en effet les chauffeurs. Ils dénoncent l'arbitraire en fait de ces décisions, parce que finalement, c'est toujours le client qui a raison. On est vraiment dans cette logique du client roi. Et donc, il va falloir eux qu'ils argumentent pour pouvoir défendre leur cause. Mais la première chose qui va être faite, c'est que leur compte va être suspendu. Et donc, ils essayent de, eux, au quotidien, en fait, de se prémunir de ces plaintes des clients.
Mais comment peut-on faire ?
Après, mais en fait, c'est tout un travail. Donc, moi, je parle de en empruntant ce terme, je parle de travail émotionnel. Ouais. Au sens, par exemple, ce que disait Adil tout à l'heure, il disait, bah, voilà, des fois, on discute, des fois, on ne discute pas. Bah, par exemple, voilà, on va dire bonjour, on va accueillir le client, mais est-ce que la personne veut discuter, ne veut pas discuter ? En fait, si on discute, mais que la personne ne voulait pas, on a été trop présent, ça peut induire une plainte derrière. À l'inverse, on va être considéré comme pas sympa parce que finalement,
trop
la
froid,
personne voulait échanger. Et donc, il y a tout un tas de jeux, de bonnes distances à trouver. On va éviter certains sujets, des sujets politiques, des sujets en matière de religion. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les chauffeurs se donnent un certain nombre de conseils entre eux, notamment sur les réseaux sociaux. Pour dire, voilà, pour maintenir sa note ou obtenir une bonne note, vaut mieux faire ça, ça, ça. Et paradoxalement, au moment même où ils ont le sentiment, finalement, de se réapproprier leur travail, en fait, tous ces conseils, ça ressemble beaucoup, en fait, aux conseils prodigués par Uber. Donc, ça questionne, en fait, sur, justement, la capacité à résister. Parce que, finalement, quand on essaye de se réapproprier son travail pour échapper à une mauvaise notation... on en vient à finalement reprendre ce qui était un peu les conseils,
c'est ça,
prodigués par Uber.
La pressuration, la note, ça joue aussi beaucoup sur la charge mentale, j'imagine, des chauffeurs VTC, Karim Daoud.
Aujourd'hui, le chauffeur, il travaille avec une épée Damoclès sur la tête. Donc, constamment, il a des yeux rivés sur sa note, au bon vouloir du client. Comme disait madame tout à l'heure, si le client il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur,
passer une certaine heure de la nuit aussi.
Il faut surtout se contenir en tant que chauffeur, avoir un sens du professionnalisme irréprochable. Et sinon, on est déconnecté. Qui dit déconnecté
C'est vraiment le chantage à la déconnexion. Sauf que le chauffeur, il peut aussi noter le client.
Oui, mais est-ce que c'est encore une fois, on le rapport de force n'est pas
bien
le même.
Sûr.
Le client restera toujours roi.
Ouais.
En effet, le client reste roi. Mais par contre, moi, j'ai rencontré des chauffeurs qui m'expliquaient, en jouant toujours avec les indicateurs, mais qu'ils refusaient certains clients qui avaient une note inférieure à tant. Genre 4.4.
Oui, mais s'ils refusent trop, enfin, le problème, c'est qu'après, on rentre dans la logique.
Après, soit on joue avec les indicateurs, soit en fait, la note du client, c'est un moyen de se préparer à l'interaction. C'est-à-dire que si un client a vraiment une très mauvaise note, on se prépare un peu psychologiquement pour finalement faire face à peut-être cette potentielle agressivité.
Le fameux management par algorithme. Vous l'écrivez dans votre livre, Sophie Bernard, le plus gros marché européen d'Uber, c'est Londres.
Oui.
Je vous propose de retrouver notre correspondante de RFI au Royaume-Uni, c'est Emeline Vin. Bonjour Emeline.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Alors, dites-moi, il me semblait qu'Uber avait été interdit à Londres.
Oui, c'est vrai, l'autorisation d'Uber à Londres a été révoquée deux fois, en 2017 et puis en 2019. Les raisons, absence, je cite, de responsabilité d'entreprise il y a 6 ans, et puis il y a 4 ans pour des manquements à la sécurité des passagers et un mauvais respect des travailleurs. En l'espèce, la justice accusait Uber de ne pas prendre au sérieux les signalements des usagers concernant certains chauffeurs et de ne pas être très regardant non plus sur la conduite sans permis et sans assurance. Deux interdictions. Et pourtant, d'appel judiciaire en mesure interne, Uber a réussi à se maintenir dans la capitale britannique et dans une soixantaine de villes ici. Au printemps 2022, l'entreprise américaine a même décroché un permis d'exercer pour 30 mois, soit 2 ans et demi. Il y a bien sûr des concurrents, il y a Bolt, il y a Freenow, mais Uber est vraiment le leader parmi les VTC à Londres. Sur la route et sur l'eau, l'entreprise a conclu en 2020 un partenariat avec Thames Clipper et affiche désormais son nom sur les catamaran de la Tamise, un service de transport en commun fluvial qui relie le centre de Londres jusqu'aux extrémités est et ouest de la ville.
Ouais, alors du coup, Emeline, on peut dire qu'Uber s'est fait une réputation au Royaume-Uni, c'est ça ?
Oui, en tout cas, l'entreprise de VTC fait tout pour se racheter une image et enchaîne les opérations de communication sur tous les plans. Il y a l'anecdotique, par exemple, pendant le couronnement, Uber permettait de troquer le SUV étincelant avec un carrosse pour se déplacer de manière royale. Il y a l'écologique aussi, un sujet important pour de nombreux londoniens. L'entreprise promet une flotte 100% électrique d'ici 2025, dans moins de 2 ans, et elle propose des formations sur son site. Alors, en réalité, ce sont des webinaires sur les bienfaits des véhicules électriques. Si le délai semble ambitieux, le fond de la promesse l'est un peu moins. Le maire de Londres, Sadiq Khan, est déjà en train de mettre en œuvre une politique zéro émission à moyen terme par le biais de taxes et de péages urbains. Les taxis et les VTC sont déjà obligés d'être hybrides, alors investir dans l'électrique, finalement, c'est s'assurer un avenir à Londres. Et puis enfin, sur le plan humain, on connaît la réputation d'Uber au sujet du droit du travail et du respect des chauffeurs, vos invités nous en parlent. Oui. Il y a quelques semaines, l'entreprise a annoncé prendre en charge 10 heures de garde d'enfants par semaine pour un millier de ses conducteurs dans le cadre d'une expérimentation. L'objectif officiel, permettre aux conducteurs d'accepter des courses aux heures les plus rémunératrices le soir et les week-ends, qui sont aussi évidemment les moments les plus compliqués pour faire garder les petits.
Ouais, bah justement, parlons de ces travailleurs. Est-ce qu'il y a un profil type ou pas? Qui sont-ils?
Alors, Uber revendique 45 000 chauffeurs à Londres, un chiffre extrêmement compliqué à vérifier de manière indépendante. 4 sur 5 travailleraient à temps plein, toujours selon Uber. Au-delà de ça, difficile de trouver des données fiables sur le profil de ces conducteurs. Ce qui est intéressant, c'est leur statut. En 2021, la Cour suprême britannique les a reconnus employés d'Uber et non auto-entrepreneurs. Par conséquent, ils doivent être rémunérés au moins au salaire minimum et sont éligibles à des congés payés. En fait, c'est une majoration de leur salaire de 12%. Ils possèdent également un syndicat reconnu, l'ADCU, qui représente aussi les livreurs à vélo. Alors tout cela, ça ne revient pas tout à fait à dire que tout va pour le mieux. Ouais. Ces derniers mois, les conducteurs ont manifesté devant le siège de TfL, Transport for London, l'autorité régulatrice, pour protester contre la mise en place par Uber de tarifs modulables. Les plateformes confient désormais la tarification à l'algorithme, en fonction de la demande. Alors selon l'ADCU, ça pousse les conducteurs à une dynamique d'auto-exploitation, de surconcurrence. Et pour l'instant, les conducteurs n'ont pas obtenu gain de cause.
Ouais, à suivre donc. Merci beaucoup, Emeline Vin. Je rappelle que vous êtes correspondante au Royaume-Uni pour RFI. Sophie Bernard, je voyais bien écouter Emeline, d'autant plus que vous avez enquêté là-bas aussi, à Londres. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces campagnes de communication, campings d'Uber, notamment là-bas, à Londres?
Alors moi, ce que ça m'inspire d'abord, c'est les énormes dépenses en fait auxquelles Uber est prêt à consentir pour défendre son modèle, pour le coup. Et donc toujours d'énormes campagnes de communication, d'opérations de communication. Et donc je voulais juste rappeler qu'Uber est donc toujours déficitaire, ne dégage pas de bénéfices.
Mais comment ça se fait? C'est pas possible ça.
Ah, bah, parce qu'en fait, c'est lié à leur modèle. Hein, parce que finalement, chaque implantation dans une ville est en fait extrêmement coûteuse. Parce que finalement, on va, donc, opération de com, donc c'est très cher. Et puis, par exemple, les chauffeurs, pour les attirer, on va en fait leur offrir des primes qui sont importantes, qu'on va supprimer par la suite. Mais à chaque fois, c'est systématique. On va ensuite offrir plein de courses gratuites ou des promos à des clients pour les attirer. Mm-hmm. Parce que l'objectif, c'est de prendre le marché et d'instaurer une position de monopole, en fait. Ce à quoi ils parviennent, en tout cas, pas totalement, aujourd'hui dans les 3 métropoles, plus à Montréal par exemple, mais en tout cas ils occupent une position de leader et ne pas travailler par leur intermédiaire, ça devient très compliqué en réalité pour pouvoir s'en sortir. Parce que les clients passent par Uber. Et les chauffeurs sont finalement contraints de le faire eux aussi.
Oui, c'est ça. Vous vouliez rebondir à ce sujet
Oui, effectivement, Uber possède une grande part du marché, donc... Surtout ici en Île-de-France. Hein. Faut savoir que 80% de l'activité est concentrée en Île-de-France.
Oui.
Donc, et effectivement, du jour au lendemain, quand on arrête avec Uber, on s'ampute d'une grande partie de ses revenus.
Oui, c'est ça. Notre correspondante, Emeline, disait que tout ça, ça provoque de l'auto-exploitation et une surconcurrence chez les chauffeurs aussi, en fait. Vous, Sophie Bernard, vous avez toujours des mots très forts hein, dans votre livre. Vous dites qu'Uber a créé, là on parle d'Uber, mais ça, d'autres plateformes, une armée de réserves, une main-d'œuvre exploitable et corvéable à merci 24 sur 24. C'est une stratégie stratégie économique assumée.
Oui, c'est une stratégie économique assumée au sens où leur modèle économique, ça repose sur, justement, c'était dit tout à l'heure, sur le fait de satisfaire rapidement la clientèle. Donc, pour ça, il faut une main-d'œuvre disponible, H24. Et c'est en ce sens où justement, la main-d'œuvre, les populations racisées, en fait, constituent une réserve de main-d'œuvre extrêmement précieuse pour la plateforme. Parce qu'en fait, ils peuvent bénéficier d'un afflux de main-d'œuvre régulier. De par, encore une fois, la position spécifique qu'ils occupent sur le marché du travail.
Et ils en ont conscience, les chauffeurs VTC qu'on retrouve dans votre association
Effectivement, ils en ont conscience. Mais surtout, c'est une activité où il y a beaucoup de
turnover.
Exactement. Donc, il y en a 10 qui partent, il y en a 10 qui attendent et qui reviennent.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pas un souci pour Uber. Au contraire, s'ils peuvent en avoir 10 de plus, et ils offrent des formations, etc., pour qu'il y ait de plus en plus de chauffeurs.
Ouais, Sophie Bernard, vous parlez de stratégie de chaos, du chaos.
Notamment stratégie du chaos au sens où, par exemple, tout ce qui est mobilisation des chauffeurs, mobilisation des taxis, ils en font une ressource pour leur communication. Finalement, c'est ce qu'ils ont fait avec les taxis en particulier, à chaque implantation, c'est regardez, nous sommes un peu des innovateurs héroïques qui représentons le progrès et finalement, en face de nous, nous avons des conservateurs qui sont corrompus et ne veulent pas voir advenir justement cette innovation. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours dans cette logique de progrès. Et après, en tant que tel, si on regarde explicitement, l'innovation technologique d'Uber, elle n'est pas en fait extraordinaire. C'est pas une réelle rupture, c'est un GPS en réalité.
Oui.
Et d'ailleurs, les taxis se sont appropriés ces dispositifs.
Mmh. Bien sûr.
Donc c'est en tant que tel, c'est pas l'innovation technologique qui est en fait si spécifique à Uber. C'est sa capacité à s'implanter très très rapidement, se développer très très rapidement et de prendre le marché avec des investissements colossaux.
Comment on peut faire pour améliorer le sort de ces travailleurs de plateforme, comme on les appelle? Vous êtes bien placé pour en parler en tant que responsable de l'association des chauffeurs VTC. Est-ce que vous avez encore de la marge? Est-ce que vous avez encore d'autres batailles, priorités?
Oui, on a de la marge et surtout, on défend aujourd'hui les chauffeurs à ce niveau-là. Le revenu aujourd'hui, il est indécent. On ne peut pas travailler aujourd'hui 60 heures par semaine, au minima, pour l'équivalent de 2000 euros. On est obligé d'avoir des filets, que ce soit de sécurité, de social, ouais, de retraite. Il faut promettre, entre guillemets, ces chauffeurs qui longent dans cette activité, il faut leur promettre, entre guillemets, un avenir décent. C'est pas... On est très très loin de la retraite à 64 ans,
si on continue dans
ces conditions-là, etc. Le chauffeur, à 70 ans, il va continuer à travailler parce qu'il n'aura pas le choix.
Dans votre livre, vous dites qu'il faut prendre le problème à la racine, Sophie Bernard, en disant, mais il faut s'attaquer aussi au fait que si ces hommes-là, en tout cas en surreprésentation racisée, n'étaient pas aussi discriminés dans l'accès à l'emploi, Uber n'aurait pas cette main-d'œuvre-là.
Oui, tout à fait. Donc, on peut en effet, il s'agit de revenir un peu à la racine, au sens où qu'est-ce qui permet à Uber d'avoir cette réserve de main-d'œuvre? C'est bien que ces hommes racisés sont victimes en effet de discrimination. Donc, il s'agit d'agir à ce niveau-là pour qu'ils soient aussi en position de force, eux, pour dans ce type d'interaction. Et je voulais revenir aussi sur le statut worker, parce qu'en fait, tout à l'heure, ce qui a été dit
à Londres.
Oui. C'est qu'ils ne sont pas employés, ils ont le statut de worker, qui est un statut intermédiaire. En
hybride.
France, on en
hybride.
A deux, c'est hybride. Donc, qui est entre indépendant et salariat. Donc, c'est...
Avec tous les avantages et les inconvénients
C'est pas... Alors non, moi, je parle de travailleur hybride, en effet, dans l'ouvrage, pour parler des chauffeurs Uber, là, en général, qui en effet tous les inconvénients, en fait, des deux statuts, clairement. Mais là, ce statut hybride de worker, c'est... ils n'ont pas tous les droits et protections associés au statut des salariés.
Oui, d'accord.
Ils sont entre deux. Donc ça, il y a un débat, justement, là-dessus. Et et notamment, ça ne remet pas en cause le modèle d'Uber parce que ce statut-là, pour les impôts, en fait, il y a seulement deux statuts. Et être worker, ça relève du travail indépendant. Donc, Uber ne paye pas de cotisations sociales sur les workers.
Ouais, ouais.
Ce qui ne remet donc pas en cause ce modèle économique.
Ouais, ouais. Pour t'amener pareil, quelque part, il y a aussi une vraie question, une vraie politique aussi en ce qui concerne la discrimination à l'emploi aussi de certaines personnes racisées. Et donc, quelque part, profite aussi Uber tout en disant « mais oui, mais grâce à nous, ils ont du boulot aussi hein. ».
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand Uber est arrivé, il est arrivé sur un terrain qui était propice, où pas mal de personnes étaient chômeurs, etc. Notamment des personnes issues de l'immigration, diplômées ou pas, mais qui avaient beaucoup de mal à trouver du travail. Et du jour au lendemain, on leur demandait de venir avec une belle voiture en costard, de venir travailler, d'ouvrir les portes. Bon, c'est vrai qu'au début, comme je disais au début, le travail, il était bien rémunérateur.
Ouais, mais là, c'est
et
plus le
au
cas,
fil du temps, il s'est dégradé.
Piège.
Voilà, exactement.
Très rapidement, le mot de la fin, Sophie Bernard.
Très rapidement, moi, je voulais juste compléter simplement parce que moi, parmi les enquêtés, j'avais des chômeurs, en effet, mais en fait, j'ai eu une grosse majorité de personnes qui étaient en emploi, en fait, et qui étaient dans un emploi, qui avaient justement des emplois précaires, mal payés, pénibles, et qui, en fait, qui ont quitté ces emplois pour devenir chauffeurs, pour améliorer leurs conditions.
Ouais.
Et je pense que c'est quand même important de dire aussi que ce n'était pas uniquement des chômeurs. C'est que c'était des personnes à qui on a vendu du rêve.
Oui, c'est ça, vendu du rêve.
Effectivement.
Voilà. Très rapidement,
juste qu'on oublie que le statut pour devenir chauffeur, c'est un statut indépendant.
Oui.
Donc les cotisations sociales ne sont pas les mêmes.
C'est ça.
Donc quand on est salarié, même SMICA, on cotise pour
bien
sa retraite,
sûr,
etc.
On l'a compris.
Mais quand on est indépendant, ce n'est pas du tout les mêmes cotisations.
Merci beaucoup en tout cas pour cet échange passionnant entre vous. Merci Karim Daoud, président de l'Association des VTC de France, et Sophie Bernard, je recommande votre enquête Uber usé, le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal, c'est chez PUF. Merci à tous les deux.
Merci.
Allez,
merci.
On se quitte avec le jeune artiste français Moussa et son tout premier single s'appelle Cabrioli sur RFI.
Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Elle est belle, elle est svelte, soleil ardent sur l'asphalte. Putain de merde, rappelle-moi sur quel pied je danse. Comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Je l'emmène dans mon cabriolet, elle fait des sauts de cabriolet. Rappelle-moi sur quel pied je danse.
De voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Valentine Lemaire. On se retrouve demain à la même heure sur RFI. On vous parlera de la différence entre le chanvre et le cannabis. Vous saurez tout. Allez, à demain.